On a souvent cette idée reçue, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais on réduit souvent la communication visuelle à de la simple déco, quoi.
Ouais, un pur exercice de style.
C'est ça. On voit des jolies couleurs, une belle typo sur un écran, et on s'arrête vraiment à la surface. On se dit que le designer, c'est juste un artiste dans sa bulle qui fait des trucs esthétiques.
Et c'est un mythe qui a la vie dure. En fait, cette perception hyper superficielle, elle s'explique parce que le bon design, par définition, il est conçu pour paraître évident.
Pour qu'on ne le remarque pas, finalement.
Exactement. L'œil capte un résultat qui est pensé pour générer zéro friction. Mais ce qu'on ignore totalement, c'est toute la machinerie en arrière-plan, les choix stratégiques, les contraintes techniques, bref, tout ce qu'on ne voit pas. Le visuel, c'est jamais qu'un symptôme. La vraie solution, elle est dans la stratégie.
Ben c'est pile ce décalage qui m'a donné envie qu'on fasse cette exploration aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de déconstruire ce mythe, et pour ça, on a un document de base super intéressant. C'est le site web vitrine d'un studio de création graphique qui s'appelle le studio Kaeledo Link.
Un très bon cas d'étude d'ailleurs, hein.
Grave. Et le but, c'est pas du tout de juste lister leur portfolio, hein. On va utiliser ce studio comme une loupe. On va regarder comment, aujourd'hui, un créatif doit mélanger la stratégie commerciale, la technique pure, l'empathie humaine et la sensibilité artistique pour créer une marque qui a du sens.
Surtout que leur positionnement prend un peu à contre-pied tout ce qu'on entend d'habitude dans le monde de l'entreprise.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Bah, aujourd'hui, le marché valorise à fond l'ultra-spécialisation. On t'est dit toujours qu'il faut trouver ta niche, être l'expert absolu d'un tout petit domaine. Et là, on a une approche qui documente à refus net de cette hyper-spécialisation.
C'est même affiché en grand. La créatrice du studio revendique carrément la phrase, je cite, « J'ai choisi de ne pas choisir
« C'est osé comme slogan.
». Ouais. Le document parle d'un parcours atypique qui nourrit sa façon de créer avec cette promesse de trouver un équilibre entre stratégie et sensibilité. Et le but ultime, c'est de concevoir plus que du design, créer du sens. Mais je t'avoue que moi, quand je lis « Je choisis de ne pas choisir », j'ai direct un petit signal d'alarme qui s'allume.
Ah oui, le syndrome du couteau suisse.
Sa lame, elle vaudra jamais le couteau d'un vrai chef étoilé.
Et ses ciseaux couperont moins bien que ceux d'un coiffeur, c'est sûr.
Voilà. C'est comme ces restos de quartier, tu sais, où la carte propose des sushis, des pizzas, des crêpes et de la choucroute.
En général, tu doutes un peu de la fraîcheur du poisson.
Exactement. Tu te dis que c'est pas possible de tout faire bien. Donc vouloir tout faire, de la stratégie pure jusqu'à l'illustration, est-ce que c'est pas prendre le risque énorme de diluer son expertise et d'être juste moyen partout?
C'est une angoisse hyper classique de la part des clients, dont l'analogie du resto l'illustre super bien. Mais en fait, faut regarder la nature même de ce qui est produit ici.
C'est-à-dire?
Bah, dans la restauration, oui, la spécialisation garantit l'efficacité. Mais dans la communication d'une marque, c'est l'inverse. Une tâche isolée, c'est un danger. Aujourd'hui, la capacité à relier les points, ce qu'on appelle la pensée systémique, c'est devenu une compétence technique à part entière.
Donc le fait de faire le lien entre tous, c'est ça l'expertise.
Exactement. Imagine, une entreprise confie son identité à un pur stratège financier. Elle aura un document parfait, mais froid, incapable de générer la moindre émotion.
Et si derrière, elle donne ça à un illustrateur qui capte rien au commerce?
Elle se retrouve avec une magnifique œuvre d'art qui ne vendra absolument rien à sa cible. En fait, le refus de choisir dont parle le studio, c'est pas de l'indécision. C'est une méthode très claire pour garder le contrôle sur toute la chaîne de production du sens.
Ouais, la stratégie et la créa, c'est plus de bureaux séparés qui s'envoient des mails froids. C'est le même processus mental.
Voilà, c'est cette hybridation qui empêche de faire du design vide. Pour qu'une identité soit cohérente, il faut que la personne qui dessine la courbe du logo comprenne intimement la stratégie globale de la boîte.
Je vois. Mais du coup, cette philosophie, pour pas que ça reste juste une belle phrase en l'air, il faut la structurer. Et en fouillant dans les services du studio Kaeledo Link, on voit que leur écosystème est divisé en quatre grands piliers super distincts.
Et c'est là que ça devient concret.
Grave. En lisant ça, j'ai tout de suite pensé à la construction d'une maison. Ces quatre piliers, c'est pas juste un menu où tu pioches au hasard, c'est vraiment une chronologie.
Ah, j'aime bien la métaphore de la maison. Comment tu répartis ces piliers, du coup?
Bah, le premier pilier, c'est le branding. Donc le naming, le logo, la charte graphique. Le studio dit que c'est pour rendre la marque immédiatement reconnaissable. Donc pour notre maison, c'est clairement les fondations.
Le truc sur lequel tout repose.
Exactement. Si tes fondations sont bancales, tout ce que tu construis dessus va s'effondrer au premier coup de vent. Ensuite, deuxième pilier, le graphisme et web design. Là, on parle d'offrir une expérience fluide, une mise en forme harmonieuse.
Donc là, on monte les murs.
C'est ça, c'est l'architecture pure. Comment on répartit les couloirs, où on met les fenêtres pour la lumière, pour que la circulation soit logique dans la maison.
On est vraiment dans la fonctionnalité pure, l'absence de friction.
C'est le mot. Après, troisième pilier, la communication digitale et stratégie, genre les réseaux sociaux. Là, c'est les routes, les panneaux, les chemins qui mènent à la maison. Parce que bon, ta villa a beau être magnifique, si personne trouve la route pour y aller, elle sert à rien.
Ouais, c'est l'acquisition, la visibilité.
Voilà. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'illustration. Le studio précise que ça sert à raconter une histoire et créer un lien émotionnel fort. Et là, bah, c'est la déco d'intérieur. Les meubles, les photos sur les murs. C'est ce qui donne une âme à un bâtiment un peu froid pour en faire un vrai foyer.
Ce qui est fascinant quand on analyse ton architecture, là, c'est que ça révèle une frontière hyper fine entre deux types de communication. Et elles utilisent des mécanismes psychologiques qui sont presque opposés, en fait.
Ah ouais? Comment ça?
Bah, d'un côté, t'as la communication fonctionnelle, le web design, la structure. Là, le vocabulaire est hyper chirurgical. Ergonomie, lisibilité, parcours utilisateur. Dans cette zone-là, le design doit être invisible.
Ouais, si tu galères à trouver le bouton contact, c'est que le design est raté.
C'est ça. La charge cognitive doit être proche de zéro, l'action doit se faire toute seule.
Comme dans la maison, tu vas pas avoir besoin d'un plan pour trouver où est le salon, quoi.
Exactement. Mais de l'autre côté, le pilier de l'illustration fonctionne sur une dynamique complètement inverse. Là, on parle de sensibilité, de singularité. Le design ici doit être ostentatoire. Il doit attirer l'œil, te faire marquer une pause et déclencher un ressenti, une émotion irrationnelle.
Donc, l'illustration vient un peu casser la froideur mathématique de l'ergonomie.
Totalement. C'est pour ça que cet écosystème hybride est fort. L'un sécurise la personne, l'autre la séduit.
C'est super clair. Bon, sur le papier, cette mécanique architecturale, elle est implacable, mais un beau concept théorique, ça se heurte toujours à la réalité du terrain. Et en lisant la documentation du studio, il y a un truc très pragmatique qui ressort, leur ancrage local.
En Savoie, c'est ça?
Ouais, entre Chambéry et Aix-les-Bains. Et quand tu vas sur la page des témoignages clients, c'est bourré de retours d'acteurs de cette région. Et en analysant ces retours, j'ai remarqué un paradoxe assez ouf.
Hein? Quel genre de paradoxe?
Bah, on parle d'un métier qui est ultra visuel, technique, des logiciels complexes, des vecteurs, de la théorie des couleurs. Mais quand tu lis les avis, genre... Il y a le comité des fêtes locales, le premier adjoint de la mairie de la Chapelle du Mont du Chat, ou une société qui s'appelle 123 Écouter, Aider, Agir. Eh ben, la technique graphique, elle est quasi absente de leurs commentaires.
Ils parlent de quoi alors?
Ils parlent de réactivité, de contact humain, de rigueur. Ils disent que le studio est à l'écoute, qu'il respecte les délais. Il y a même une cliente, Aurore, qui parle de la fondatrice, Alizée, en disant « Elle a directement su cibler ce que je recherchais en posant les bonnes questions. »
C'est très révélateur, ça.
Mais oui, on dirait qu'on évalue un psy ou un gestionnaire de crise, pas un directeur artistique. Du coup, je me demande, est-ce que le vrai produit qu'ils achètent, c'est pas simplement l'image finale?
Mais en fait, ça touche au cœur d'une grosse mutation dans l'industrie créative, ce qu'on appelle la commoditisation du design. Aujourd'hui, l'exécution visuelle pure, c'est devenu une denrée hyper courante.
Ouais, tu peux avoir un logo sur Internet pour 20 balles.
Exactement, fait par quelqu'un à l'autre bout du monde. La compétence technique de base, c'est complètement banalisé. Donc la valeur, la vraie valeur financière et stratégique, elle s'est déplacée. Elle est passée du résultat final vers le processus d'accompagnement. Et c'est là que les fameuses soft skills entrent en jeu.
Les compétences comportementales, ouais. Donc l'ancrage en Savoie, c'est pas juste pour faire joli sur la carte de visite?
Pas du tout. C'est une promesse de poignée de main, d'un regard direct autour d'un café. En fait, le véritable produit qui est vendu, c'est la confiance.
Un climat de sécurité, quoi?
C'est ça, l'adjoint au maire ou l'entrepreneur, il achète d'abord de la sécurité. La rigueur, l'écoute active, c'est ça qui bâtit cette confiance. Si la cliente sent qu'on lui a posé les bonnes questions, elle va accepter la proposition créative ensuite. Le plus beau logo du monde, s'il vient d'un designer qui n'a pas écouté le client, il sera rejeté.
L'écoute, c'est un peu le cheval de Troie de la créativité.
C'est une belle image et c'est très vrai.
Mais alors, il y a un truc qui m'a fait énormément sourire. On vient de parler de chaleur humaine, d'empathie, de proximité avec les clients savoyards. Et pourtant, quand tu arrives sur le site web du studio, le tout premier contact, la toute première interaction, c'est d'une froideur, mais clinique.
Tu parles de la fameuse bannière de cookies.
Mais oui, la politique de gestion du consentement. C'est le mur juridique par excellence. Le contraste est incroyable. Avant même de voir une illustration poétique, tu te prends un texte hyper austère. Attends, j'ai noté la phrase. Ça dit « L'accès ou le stockage technique est strictement nécessaire dans la finalité d'intérêt légitime de permettre l'utilisation d'un service spécifique. »
le jargon juridique dans toute sa splendeur.
Et ça continue avec la division stricte des données. Les préférences, les statistiques anonymes, le marketing pour le profilage publicitaire. C'est comme si on t'invitait dans une super galerie d'art contemporain, tu t'attends à vivre une émotion esthétique forte, et là, avant même de voir le premier tableau, il y a un avocat en costume gris qui te barre la route et te fait signer un formulaire en 4 exemplaires.
Un formulaire qui t'explique comment on va chronométrer ton temps de pose devant chaque toile.
C'est exactement ça. La friction est maximale. La poésie en prend un coup.
C'est très drôle, mais en même temps, cette friction-là, elle illustre l'exigence absolue du créatif digital d'aujourd'hui. C'est la preuve que l'hybridation dont on parlait au début, c'est pas un luxe, c'est de la survie.
Comment ça ?
Le designer moderne, il est plus dans un atelier bohème à peindre des toiles, isolé du monde. Il doit jongler en permanence entre deux hémisphères du cerveau.
Le côté empathique et créatif contre le côté hyper rationnel et légaliste ?
Voilà. D'un côté, il doit générer de l'émotion, du lien humain, et de l'autre, il a une infrastructure technologique qui est soumise à des lois implacables, binaires, où il n'y a aucune place pour la poésie. Le vrai défi du web design, c'est de faire cohabiter ça. Il faut intégrer cette barrière juridique pour qu'elle abîme le moins possible l'expérience et la chaleur de la marque.
Ah ouais, c'est vraiment l'application directe du « j'ai choisi de ne pas choisir ». Elle est obligée de choisir les deux. La sensibilité de l'illustration et le stockage technique par intérêt légitime.
C'est un exercice de funambule constant.
C'est clair. Et ça boucle parfaitement notre réflexion, je trouve. On voit bien avec le cas de ce studio que pour créer une marque qui tient la route aujourd'hui, il faut une alchimie super spécifique. Il faut une bonne architecture technique pour affronter les règles d'Internet, une fondation stratégique pour survivre sur le marché, de l'illustration pour l'émotion. Mais le ciment de tout ça, c'est vraiment l'écoute humaine derrière le projet.
Tout à fait. Une technique parfaite sans cette écoute, ça donne juste une coquille vide que marchera jamais commercialement.
Et tu sais, en pensant à cette fameuse écoute active, ça m'amène à une réflexion finale un peu vertigineuse, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec la tech.
Tu penses aux intelligences artificielles, hein ?
Exactement. Les IA génératives sont en train de retourner complètement le monde de la création. Aujourd'hui, générer une image hyper complexe, coder un site web, ça prend littéralement quelques secondes. La virtuosité technique, manipuler un logiciel de design, ça va se banaliser à une vitesse folle.
La machine devient le meilleur des exécutants. Ça remet complètement en question la valeur d'un créateur.
Voilà. Et c'est là que le témoignage de la cliente, Aurore, qui disait que le studio savait poser les bonnes questions, prend tout son sens. C'est plus juste un petit compliment sympa. C'est une question de survie.
Absolument.
Parce que l'IA, elle peut te pondre n'importe quel visuaire instantanément. Mais sa limite, c'est qu'elle ne sait pas quelles questions poser pour faire émerger la vraie identité de ton projet. Elle ne peut pas lire entre les lignes de tes doutes. Donc le futur de ces métiers, c'est sûrement plus l'outil. C'est l'art de s'asseoir avec quelqu'un, de l'écouter et de formuler la bonne interrogation.
C'est fascinant de se dire que la technologie de pointe nous ramène à la compétence humaine la plus basique.
C'est ça. Dans un monde saturé de belles images instantanées, le vrai luxe demain, ce sera peut-être juste le temps qu'on passe à s'écouter avant même de tracer le tout premier trait. Et bien sûr, cette réflexion, on va clôturer notre exploration du jour. Merci de m'avoir suivi là-dedans, c'était super intéressant.
Avec grand plaisir, c'était passionnant.